Mais soyez pas étonné aussi qu'elle était aussi un peu agitée. C'est pas fait pour, mais c'est vrai que les questions que nous essayons de soulever ensemble depuis 36 heures touchent des choses forcément très intimes. Donc ça peut être normal qu'à des moments, effectivement, le Seigneur travaille nos cœurs. Un petit éclairage peut-être pour certains. On essaie d'insister beaucoup depuis donc le début de ce week-end sur le fait que Jésus nous sauve. Jésus vient nous libérer. En disant, mais vraiment, c'est finalement Jésus, ce n'est qu'un médecin et on est là que pour régler, il est là que de manière utilitaire pour régler nos problèmes. Voilà. C'est vrai que le Seigneur est libérateur et il nous guérit. Et c'est aussi le médecin de nos âmes. Mais effectivement, il n'est pas également que cela. Et par rapport à certains, effectivement, qui disent, mais peut-être que nous, on n'a pas tous ces problèmes-là. Voilà. Eh bien, amen, merci Seigneur. Mais je crois aussi, ce qui est important, ce que nous, le point sur lequel nous avons essayé d'insister depuis le début, c'est combien le Seigneur veut nous faire vivre, non pas simplement une vie sans problème, parce qu'il y a toujours des problèmes, il y a toujours la croix, de toute façon, dans notre vie, d'une manière ou d'une autre. Mais surtout, il cherche à nous faire vivre une vie profondément intense au niveau de l'amour entre nous. C'est notre programme, si on peut dire. C'est notre appel. Et donc, effectivement, l'appel et justement l'accueil du Christ dans nos vies conduit véritablement à grandir dans cette intensité au fur et à mesure que nous accueillons vraiment l'Esprit du Seigneur et l'œuvre de la croix et de la résurrection. Voilà, ça nous semblait important de dire cela en ce début. Alors, on va commencer ce cénacle, ce troisième cénacle, par une petite histoire. C'est l'histoire de Monseigneur Gudule, machin chose, qui vient visiter le chantier de sa cathédrale. Et il voit deux braves hommes en train de travailler sur un immense tas de cailloux. Et il casse des cailloux, et etc., etc. Et donc, Monseigneur, très très charitable, etc., s'approche de ces deux hommes, et puis l'un a l'air rayonnant, et puis l'autre a l'air vraiment extrêmement soucieux. Et pourtant, ils font apparemment le même travail. Alors, ils se tournent d'abord vers celui qui a l'air soucieux, et voilà, bonne charité chrétienne, d'abord vers ceux qui sont tristes. Voilà. Il dit, mais qu'est-ce que vous faites, mon brave homme ? Eh bien, vous voyez pas, je casse des cailloux. Ben oui, je vois bien que vous cassez des cailloux. Ben oui, je casse des cailloux et c'est pénible de casser les cailloux. Et puis, il se tourne vers l'autre qui fait le même travail. Il dit, mais qu'est-ce que vous faites, mon brave ? Je construis une cathédrale. Et donc, la différence entre ces deux personnes qui font exactement le même travail, qui ont le même travail pénible, l'un a donné du sens à son travail, l'autre n'a pas de sens à son travail et à sa vie. Et c'est la même chose pour nos vies de couple. Quand on passe, qu'on a des rythmes de vie où il faut mettre 48 heures en 24, où il faut être super au travail, super à la famille, super avec son époux, super avec son épouse, à la fois être frais, dispo, etc., etc., c'est l'équation impossible. Nos vies sont impossibles, l'exigence est trop forte. Et d'autant plus dans le monde dans lequel on est, dans lequel on a toutes les images de la perfection, etc., etc. Et on n'est pas, et on est tous effectivement très imparfaits. Et à un moment, effectivement, on a une pression sur les épaules. Et c'est vrai qu'à un moment, quand il y a tout le travail à faire, les couches-culottes, les ceci, les cela, trop c'est trop. Et à un moment, la pression est trop forte. Et à un moment, on se dit, mais pourquoi tout ça ? Et pourquoi tout ça ? Et voilà. Et donc, c'est toute la question qui nous est posée. Quel est le sens de notre vie et quel est le sens de notre couple ? Et quel est l'appel de notre couple ? Il y a un appel qui est général et qui est immense. Nous sommes, du fait de notre mariage, nous sommes appelés à être icône de la Trinité au cœur du monde. Et ça, c'est immense et c'est vrai pour tout le monde. Mais également, chacun de nous a un appel personnel et qu'il nous faut découvrir.
Voilà, donc la question qui se pose, c'est de savoir qu'est-ce que vous voulez construire dans votre vie conjugale ? Est-ce que vous voulez construire un igloo, une cabane dans les bois ou une cathédrale ? On n'a pas besoin des mêmes outils selon la vision qu'on a de notre vie conjugale. Et ça, c'est une question qu'il faut se poser au début du mariage, si c'est possible. C'est bien, il y a des fiancés, mais pour ceux qui sont un peu plus avancés, qu'il faut se poser régulièrement. Il y a une chose qui est merveilleuse dans l'Église, c'est qu'on sait qu'on est chacun unique. Et donc, chaque couple est unique. C'est pas comme dans le travail, on enlève votre poste, on trouve quelqu'un pour vous remplacer. Dans l'Église, nous avons chacun une pierre à apporter dans le mur de l'Église. Et si nous ne l'apportons pas, elle manquera. Et elle manquera toujours. Donc le Seigneur a mis au cœur de nos couples un projet conjugal, un appel spécifique, une vision, une couleur. Cherchons à savoir quelle est cette couleur. On peut être appelé à être témoin dans la vie politique, dans la vie associative, économique. On peut être appelé à être un couple qui accueille plein d'enfants. On peut être appelé à être un couple qui est au service de la pauvreté. On peut être appelé à être un couple qui est au service, de la transmission de la bonne nouvelle dans les médias. Peu importe, le Seigneur a mis une couleur spécifique dans notre couple. Et cette couleur spécifique, elle va s'appuyer sur ce que le Seigneur a mis comme point fort en nous. Et souvent, c'est ce qu'on appelle le projet conjugal, qu'on a dû normalement travailler au moment de notre sacrement de mariage. Quel est cet appel spécifique que le Seigneur a mis dans notre vie de couple ? Et si cet appel spécifique, nous pouvons progressivement l'identifier, c'est aussi facteur de cohésion pour notre couple. Rappelle-toi la vision qu'on avait reçue du Seigneur. Où est-ce qu'on en est de cette vision ? Comment on avance par rapport à ça ? Et c'est aussi cette vision-là qui va nous aider à faire des choix dans nos priorités de couple. Rappelle-toi, le Seigneur nous a appelés à être témoins au cœur du monde en accueillant plein d'enfants, la vie, la fragilité des enfants, etc. Qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui maintenant que nos enfants sont grands ? Comment on transforme cet appel ? Voilà, c'est tout ça qui est important. Il y en a qui sont appelés à être missionnaires. On connaît un couple, ils sont partis au bout du monde avec leurs enfants faire une caravane missionnaire. Il y en a d'autres qui sont appelés à servir dans la pauvreté, qui ont un témoignage de vie évangélique dans des banlieues au service des jeunes qui sont là à rien faire toute la journée et qui vivent leur vie. Il y en a qui ont des appels, mais extrêmement variés. Et le Seigneur met au cœur de chaque couple un nom nouveau. Quel est ce nom nouveau ? Alors, il y a plusieurs façons de le découvrir. Effectivement, c'est dans un travail de relecture. Finalement, qu'est-ce qui nous est propre, spécifique à tous les deux ? Quelle est notre couleur ? Est-ce que c'est l'accueil dans la maison ? Est-ce que c'est... Voilà, vous cherchez. Et cet appel-là, comment est-ce que le Seigneur va aujourd'hui l'incarner ? Parce qu'on peut avoir un appel et puis ça s'incarne avec mille façons de le faire, hein, en fonction des événements de la vie. Mais c'est très important parce qu'on voit trop de couples aujourd'hui dont la vision conjugale, c'est, excusez-moi les caricatures, hein, deux enfants, une belle voiture, une maison et un chien. Sauf que quand on a les deux enfants, la belle voiture, la maison et le chien, qu'est-ce qu'on fait ensemble ? Donc à Carpentras, il y a une rue qu'on appelle... Carpentras, c'est une ville à côté d'Avignon. Il y a une rue qu'on appelle la rue des divorcés. Chacun achète sa maison, la construit, met sa piscine, sa clôture, et puis quand tout est fini, il divorce. Donc au fur et à mesure que la rue se construit, les gens divorcent. Alors ça se les gens réachètent à partir du début de la rue, voilà. Donc ça s'appelle la rue des divorcés. Donc je ne vous souhaite pas de vivre ça. Notre appel, il est bien au-delà des moyens que le Seigneur va nous donner pour les vivre. Et il faut sans arrêt revenir à cet appel. Parce que sinon, comment on va discerner quand, par exemple, il y a l'un ou l'autre qui a une proposition professionnelle à l'autre bout de la planète ? Comment on discerne si on ne sait pas à quoi le Seigneur nous a appelés ? Alors on va être ballotté par les événements. Pour être capable de poser des décisions importantes quand on nous propose 50 engagements différents dans l'Église, lequel on choisit ? Notre sanctification, ce n'est pas dans l'Église qu'on la vit, c'est dans notre état de vie. Donc si on veut se mettre au service... Quel va être l'axe de discernement si on ne sait pas à quoi on est appelé ? C'est vraiment important de travailler là-dessus. Et au moment des fiançailles, c'est une grâce si on arrive à recevoir ça du Seigneur, parce que c'est un moment privilégié où on a un regard prophétique sur l'autre. Et il faut s'appuyer sur ce regard prophétique pour être capable de discerner qu'est-ce que le Seigneur a mis comme appel dans nos vies et à quoi il nous demande de travailler. Donc, si on veut travailler à construire une cathédrale, c'est sûr que si vous voulez faire un igloo, vous n'avez pas besoin d'avoir beaucoup de moyens. Il fait 0 degré à l'intérieur, il n'y a pas beaucoup de monde qui peut rentrer, mais au moins on ne vous embêtera pas dans votre petit igloo. Mais voilà, qu'est-ce que vous allez vivre ? C'est froid quand même, hein, un igloo. Si vous voulez construire une belle cathédrale ou une chapelle romane, peu importe, et que vous puissiez accueillir, que cette cathédrale soit ouverte à ceux qui veulent s'y abriter, comme dit la parole de Dieu, on construit un arbre où beaucoup d'oiseaux pourront y prendre abri, y s'y tenir, alors il vous faut des piliers. On ne construit pas une cathédrale sans piliers. Et nous allons ce matin parler de ces piliers et comment construire notre cathédrale. Mais avant les piliers, la fondation.
Alors, on a exprimé, je crois que c'était hier matin, la situation, effectivement, aujourd'hui, le couple est humainement très éprouvé et on le voit tous les jours autour de nous. Et s'applique sans doute vraiment l'évangile de Matthieu au chapitre 7. Tout homme qui écoute cela et le met en pratique est comme un homme qui a construit sa maison sur le roc. Le fameux évangile de la maison sur le sable ou sur le roc. Et donc, effectivement, si nous désirons véritablement que notre maison conjugale dure, grandisse, s'embellisse, nous avons vraiment à construire sur des piliers. Et c'est ça qui est merveilleux avec la vie évangélique, c'est que cette construction de la maison conjugale peut se faire à la première heure comme à la onzième heure. On a évoqué tout à l'heure le fait qu'effectivement ce projet, ce dessin, etc., bah plus effectivement on l'accueille et on en est conscient tôt, notamment dans le cadre des fiançailles, plus c'est merveilleux. Mais la vie évangélique et la miséricorde de Dieu fait que, eh bien, effectivement, on peut accueillir une vie nouvelle, accueillir une vie conjugale nouvelle, même après 20 ans, 30 ans ou 40 ans de vie conjugale, où finalement, ces éléments fondamentaux n'ont pas été posés. Et la miséricorde de Dieu fait que, bah, voilà, on est toujours ensemble, merci Seigneur, et puis au travers d'une retraite, d'une rencontre, etc., on se rend compte vraiment que, bah, comme Nicodème, il faut naître de nouveau. Et donc ce choix, ce dessin, cette cathédrale, on peut l'accueillir également après de nombreuses années de mariage. Et donc, d'abord, pour rentrer dans la cathédrale, il faut d'abord passer par le portail. Et donc, il y a les éléments, effectivement, fondateurs d'entrée dans le mariage, qui sont les éléments très clairs de l'engagement lié au sacrement. Dieu s'engage avec nous. C'est le don dont on a parlé hier, on l'a assez fait. Mais nous, quelle est notre part ? Et notre part, c'est « je t'aime », mais c'est aussi « j'ai décidé de t'aimer ». Ce qui a des moments qui peut être choquant, mais l'amour, ça ne se décide pas. L'amour, c'est un sentiment. Et donc le sentiment, eh ben non. Le mariage, justement, c'est de dépasser le simple état amoureux. Et simplement le picotement que j'ai. J'ai décidé de t'aimer. Et donc, même s'il y a des moments... Moi, ça arrive vraiment le matin, j'ai un peu la mode, ça passe pas très bien. Bon, ça passe pas très bien. Ou le soir, c'est plutôt le soir que ça passe pas très bien. Bon, voilà. Mais c'est réciproque. Mais comme j'ai décidé de l'aimer, ben, il va falloir que ce sentiment que j'ai un peu dans la gorge, là, il va falloir qu'il se dégage un peu, hein, que je m'éclaircisse la bronche, et il va falloir l'épuiser. Hein. Et puis si vraiment, surtout que... Elle m'énerve. Ben, il va falloir que ce sentiment-là, il faut que je travaille. Hein. Parce que j'ai décidé de l'aimer, donc oui, il va falloir masser ça pour que ça s'attendrisse et que je puisse vraiment lui faire un sourire, que ça soit pas un sourire crispé, mais que ce soit vraiment un sourire d'amour et de tendresse. Et là, il faudra le travailler, il faut aller chercher en profondeur. Et plus on avance en âge et plus on avance dans le mariage, plus effectivement il faut aller puiser en profondeur parce que vraiment, à des moments, elle m'énerve, c'est toujours la même histoire, c'est toujours, etc. Voilà. Mais c'est pareil, c'est réciproque, donc il n'y a pas de problème. Donc j'ai décidé de t'aimer, c'est absolument essentiel. Décider de quitter mon père et ma mère, on l'a déjà vu assez hier, c'est pas mal. Et puis, je me donne à toi. Je me donne à toi pour t'aimer, finalement. Je me donne à toi, il faut vraiment méditer. Je me suis donné à elle, je ne m'appartiens pas. Heureusement, c'est réciproque, sinon ça serait catastrophique. On s'est donné à l'autre. Et donc, ça signifie beaucoup de choses dans la vie quotidienne. Je suis à ta disposition. Voilà. Et donc, sinon, à un moment, on va reprendre. Et je ne me suis pas donné partiellement, je me suis donné en totalité. Et puis bien sûr, mais ça on l'a longuement évoqué hier matin, c'est la foi dans le Christ. Avec la conscience, tout ça j'ai fait ça, c'est mes actes, mais je sais très bien, vaut mieux pas se marier. Et je suis d'accord avec les apôtres, vaut mieux pas se marier, parce qu'humainement c'est pas réalisable. Donc si l'œuvre du Christ n'est pas en nous, et bien à ce moment-là, tout ça, à un moment, ça, il va y avoir un moment où ça va buter et on va pas passer, il va y avoir un mur. Et c'est pour cela, on a mis du temps à s'en rendre compte, pourquoi il y a tant de couples qui sont chrétiens, qui ont la foi, qui ont même une pratique, qui prient, et à un moment, ils viennent à se déchirer, ils viennent à se séparer. C'est quelque chose qui nous a beaucoup choqués. Et on s'est rendu compte d'un élément, en tout cas, qui est vraiment important, c'est que, pour nombre de ces couples, la foi était importante, mais ce n'était pas la pierre d'angle de leur vie. Et que finalement, là où véritablement, ce qui est le cœur, c'est qu'à un moment, Seigneur Jésus, nous te choisissons vraiment comme la pierre d'angle. Comme vraiment, à partir de cela, à partir de toi, nous allons construire, discerner, évaluer, vivre avec toi pour construire notre maison. Parce que tu es la pierre d'angle. Donc il ne s'agit surtout pas que monsieur et madame deviennent des petits moines et des petits moinillons. Ce n'est pas leur appel, parce que ce n'est pas leur appel. Bien sûr, l'importance de la prière, ça c'est très important. Mais l'important, notre appel, c'est la sanctification de notre conjoint et de notre vie conjugale. Et que notre chemin, notre appel, c'est de vivre la Trinité entre nous. Donc ça veut dire que véritablement, avec le Christ, mon investissement de vie, c'est mon conjoint. Le reste, c'est secondaire. Même mes enfants, même mon travail. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas important, mais que tout se rapporte à mon conjoint et à construire ensemble cette Trinité à laquelle nous sommes appelés. Et à construire cette intensité. Donc ça, c'est pour nous, c'est vraiment important de vous souligner cela. Tout ça, c'est le socle sur lequel reposent les 8 piliers dont nous allons parler.
Bon, on en est à 8. Il y a des moments, au début, on en était à 6. Maintenant, on est à 8. Donc, au fur et à mesure des années, on rajoute des piliers. Donc là, on va vous donner les points majeurs pour la vie de couple. Donc, pour construire votre cathédrale conjugale, le premier pilier, c'est la prière. Alors, ça semble évident, mais une chose essentielle à comprendre. La prière, c'est l'élément fondateur de votre communion. Si vous ne priez pas ensemble, comment alors s'étonner qu'il y ait progressivement un écart entre l'un et l'autre ? La prière, c'est ce qui permet d'être le rempart contre vos divisions. C'est pas optionnel. Et quand je parle de cette prière-là, c'est la prière conjugale. Et étonnamment, c'est souvent le plus difficile à mettre en place dans un couple. Bien sûr, il y a la prière individuelle, il y a la prière avec les enfants, on se dispute pour les bougies, machin, on connaît tous le problème, ok. Celui qui a l'icône, l'autre qui trimballe ses petites affaires. Bon, bref, chacun a des histoires rocambolesques à raconter sur les oratoires familiaux et les temps de prière. Mais la prière conjugale. Si jamais on cesse de prier ensemble, comment va-t-on faire unité ? Comment va-t-on demander au Seigneur la force d'être ensemble, de s'aimer ? Comment va-t-on confier un enfant ? C'est notre boulot de parents de prier pour nos enfants. Et la première prière que le Seigneur nous confie, c'est de prier pour l'autre. Souvent, on prie pour des tas de choses, mais pas pour l'autre. Mais c'est notre premier job. Le Seigneur nous a confié le bonheur de l'autre. Donc, prions pour lui, pour que sa réunion se passe bien, pour que le Seigneur l'aide à guérir de telles blessures qu'on identifie. Quand on voit qu'il y a une souffrance entre nous, au lieu de la mettre entre nous, mettons-la devant le Seigneur ensemble en disant « Seigneur, voilà, on a un problème là, sur telle blessure, et on va s'acharner, on va prier ensemble pour ça, jusqu'à ce que tu nous donnes la grâce. » Même si ça concerne que l'un ou que l'autre. Donc là, il y en a qui veulent... Enfin, dans le couple, on se met à nu l'un devant l'autre physiquement, mais on se partage aussi ce qu'on vit intérieurement. On se met aussi à nu de ce qu'on ressent devant le Seigneur. Sinon, qu'est-ce que c'est cette pudeur bizarre, plein de couples qui nous disent « Ah, mais nous, on est trop pudiques, on n'arrive pas à prier ensemble. » Bah tiens, C'est quand même étonnant.
C'est une réalité vraie. Mais ça veut dire que c'est un véritable travail, c'est un combat. Là aussi, j'ai décidé de t'aimer. Et donc j'ai décidé de prier parce que je me rends compte que c'est la source, c'est le branchement, c'est la source électrique, c'est la source de l'amour, c'est la source de la guérison. Et donc il est essentiel, donc même si jamais c'est spontanément, ce n'est pas naturel, eh bien on va s'y atteler. Et on va rendre pratique, efficace, le fait qu'effectivement, on a parlé du salut, mais à un moment, Seigneur, sur tel point, sur tel problème, sur cette tension, etc., vraiment fais ton œuvre de salut sur tel point, pour mon conjoint, pour nous, pour notre enfant. Mettons-le en pratique, ça a des conséquences pratiques directes.
On aurait mille exemples à donner sur comment le Seigneur nous a guidés dans ses prières conjugales pour solutionner un problème d'un enfant, pour nous éclairer sur des choix de vie. Il y a mille exemples, mais on n'a pas le temps de s'étendre. Un petit point sur lequel je pense que c'est important d'insister, c'est la louange. Il faut absolument louer, mais punaise, mais on en a besoin dans notre monde. Si on ne sait pas louer, on est écrasé par le poids de nos douleurs, de nos problèmes. Louons le Seigneur, et louons le Seigneur pour l'autre. Le jour où vraiment il vous a fait mal, louez le Seigneur de vous avoir donné un tel sein pour vous convertir et vous aimer. C'est merveilleux, quoi. Voilà. Amen. Et bien, je vous assure que ça change la vie quand on loue le Seigneur pour l'autre. Et si jamais, à chaque fois qu'on a un enfant qui nous pose problème, mais louons le Seigneur de nous avoir confié cet enfant, et vous allez voir que ça change la vie, ça change notre regard, ça change tout. Donc la louange est hyper importante, et hyper importante aussi avec les enfants. Ils adorent ça d'ailleurs. Et ça nous lâche un peu en famille, là. On peut rire un peu, on peut se détendre, voilà. Louer le Seigneur, c'est vraiment absolument important. Et aussi faire de nos familles des lieux de célébration. Il faut trouver comment célébrer en famille, prier en famille dans des liturgies. Parce que la famille est le lieu même de l'annonce de la bonne nouvelle. Notre maison est un lieu d'annonce de la bonne nouvelle. Et en premier lieu pour nos enfants, on en reparlera tout à l'heure. Donc célébrer en famille. Quand il y a des temps de Noël et tout ça, on ne se contente pas d'aller à la messe. À la maison, on fait une petite célébration, on met des bougies, on fait un décor, on danse. On trouve ce qu'on veut, mais il y a des tas d'aides maintenant aujourd'hui pour vivre ça. On célèbre en famille la joie d'être chrétien et de prier ensemble.
Alors, la deuxième pilier, c'est la question de la parole de Dieu. Vous avez vu, je crois, plusieurs l'ont souligner. Vous avez vu que depuis le début de ce week-end, on s'appuie sur la parole de Dieu. Et la parole de Dieu n'est pas quelque chose qui vient se plaquer en disant « Tiens, oui, bah oui, pourquoi pas, ouais, c'est une belle parole, mais ça ne rejoint pas ma vie. » La parole de Dieu, quand on la rumine, quand on la travaille, etc., elle parle, elle éclaire des éléments essentiels de notre vie. Et donc, il est important, il est opportun de prendre l'habitude de pouvoir partager la parole ensemble. On a tous aujourd'hui maintenant... la possibilité d'avoir prié en l'église, Magnificat, on a des choses sur Internet, on a des choses sur les iPods, enfin bon, etc., etc. Quels sont vos différents outils? Mais à un moment, il est bon, dans la prière du soir, etc., de pouvoir partager par rapport à la parole, ou lors du repas, est-ce que tu as lu la parole ce matin, etc., ou ne serait-ce pas que le dimanche, qu'est-ce qui nous a interpellés? Là aussi, j'ai décidé de t'aimer. La parole de Dieu, c'est important, c'est une parole de vie. Ok, bah, même si je mets spontanément, on n'a pas l'habitude, bah, peut-être qu'on va essayer de le faire, de partager cette parole, parce qu'elle est parole de vie. Moi, je suis le pain de vie, dit le Seigneur. Et donc, cette parole est vraiment un pain de vie. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu. Heureux, et l'observe. Heureux. Et donc, je crois à la parole. Donc je crois que la parole de Dieu va nous conduire vers le bonheur. Et moi je veux que notre couple nourrisse, développe, cultive ce bonheur. Et la parole de Dieu est un des chemins et donc un des piliers de ce bonheur à construire et que nous avons à construire.
Le troisième pilier, c'est le pain eucharistique. Vous avez bien compris déjà pendant toute cette session à quel point l'Eucharistie est proche du sacrement de mariage, à quel point elle le nourrit et elle le guérit, elle le pense, etc. Donc l'Eucharistie est vraiment un lieu de thérapie conjugale, je dirais, dans l'adoration et dans la communion. Donc des temps d'adoration quand on a des difficultés en famille, des difficultés avec nos corps, toutes sortes de... Et puis aussi pour prendre la plénitude de notre masculinité et de notre féminité, contempler le corps de Christ, vraiment, c'est une thérapie extrêmement efficace. Je suis le pain de vie qui descend du ciel pour qu'on le mange et ne meure pas. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra toujours. » Ayons foi dans cette parole. Mangeons ce pain en demandant au Seigneur de convertir notre cœur pour être davantage pain pour l'autre, c'est-à-dire nourriture pour l'autre. Accepter de se donner jusqu'à, comme le Christ, donner son propre corps à l'autre. Vraiment, c'est en imitant le Seigneur dans ce don-là que nous trouverons comment aimer notre conjoint.
Alors, un point absolument essentiel, quatrième pilier, c'est le pilier du partage et de la communication. C'est quelque chose dont on parle beaucoup aujourd'hui. Mais comme dit à un moment le Père Sonnet, grand spécialiste des couples, qui les accompagne depuis 40 ans, jamais on n'a parlé autant de communication et de partage dans le couple, jamais on n'a vu autant d'adultère. Il ne fait pas un lien de cause à effet. Hein. Mais c'est pour montrer que la communication est essentielle, ça fait partie des piliers, mais c'est bien un des piliers. Et qu'à des moments, certains disent « Oh là là !» parce qu'ils lisent à un moment quelques très bons auteurs, comme Chapman, etc., etc., qui développent beaucoup les éléments de communication dans le couple. C'est très bien. Mais si jamais c'est l'élément qui dit bah, « à travers ça, je vais tout régler », eh ben, on ne règle rien du tout. Mais c'est un élément absolument essentiel. Et c'est un outil absolument essentiel parce que nous sommes, hommes et femmes, handicapés de la parole. Les femmes, parce que de toute façon, ça sort un peu trop vite. Et les hommes, parce que ça sort un peu trop lentement. Je caricature aussi, bien sûr. Mais c'est souvent un peu comme ça. Parfois, c'est l'inverse. Hein. Parfois, c'est l'inverse. Plusieurs situations où c'est l'inverse. Hein. C'est le type, ça sort, etc. Et madame, voilà. Mais de toute façon, on n'est pas du tout fait pareil. Et donc, on a vraiment à travailler la logique de l'autre au niveau de la parole. Et cette question est absolument essentielle. Et il faut du temps. C'est-à-dire que même si on parle, c'est la parole aussi qui nous permet personnellement, c'est pas simplement une communication à l'autre. Mais quand je parle et j'essaie de relire ce que je vis à l'autre, cela me force aussi, moi, à plonger en moi-même et à faire ce travail de relecture. Et ça fait aussi, la parole, c'est aussi une seule chair, mais c'est une seule chair au niveau de l'esprit. Nous sommes appelés à faire une seule chair, être nus l'un devant l'autre, sans avoir honte, y compris sur la parole, y compris sur mes questionnements, y compris par rapport à mes combats, y compris par rapport à la manière dont je vis les choses au travail, par rapport à mes joies, par rapport à mes peines, par rapport à mes angoisses, par rapport aux enfants, par rapport au travail, par rapport à des soucis, par rapport à mes parents, par rapport à leur santé, par rapport, etc., etc. Nous sommes la consolation de l'autre. Et la consolation, elle vient aussi à maman si jamais je sais écouter. Et donc là aussi, il y a aussi beaucoup d'écueils que nous avons au niveau de la parole. L'un commence à dire son souci. « Ah, mais tu sais, mais je sais qu'il faut comment il faut que tu fasses. » Et puis, « Si, il faut que tu fasses cela, etc. etc. » Donc on a beaucoup après de travers, d'être déconseillé, de couper la parole, etc. Moi, je suis un champion de couper la parole. Voilà, donc à un moment, on a tous nos travers par rapport à ça. Et il nous faut travailler la qualité de notre communication. Voilà. Et donc, après le quatrième pilier de la parole, vient le cinquième qui est tout de suite associé.
Le gros os de la vie de couple. Le pardon. Alors ça, quand on parle de 70 fois, 7 fois dans la même journée... Comme dirait un de nos amis, au bout de 3 fois, on a déjà l'air idiot, mais alors 70 fois cette fois, franchement, on passe pour un pigeon. Eh bien oui. Le pardon, c'est le combat central du couple. Si on ne sait pas se pardonner, alors après, quand on ouvre le placard, toutes les valises tombent, toutes les boîtes tombent d'un coup parce qu'on a juste toqué et fermé la porte. Ça, c'est impossible. Donc le pardon, c'est le nettoyage quotidien des tuyaux. Si jamais vous nettoyez pas tous les jours le tuyau, eh ben, il y a des petits obstacles qui commencent à se mettre. Et puis au bout d'un moment, on a un bouchon et on ne sait pas par quel bout commencer à le sortir. Donc le pardon aussi, c'est un acte de foi. C'est aussi une décision. Évidemment, ce pardon, il va puiser sa force dans le Seigneur. Parce qu'à des moments, on ne peut pas pardonner humainement, c'est trop dur. Le pardon, c'est aussi progressif. C'est-à-dire que oui, on peut... s'être accroché sur un sujet, ne pas avoir réussi à résoudre la question, mais se donner quand même son pardon. Notre amour est au-dessus de notre conflit. On se redit qu'on, vraiment dans le Seigneur, on veut se pardonner, mais qu'on va prendre le temps de s'expliquer. Nous, on a décidé de jamais se coucher sans se pardonner. Ça nous a valu un certain nombre de nuits blanches. Aujourd'hui, on fait des progrès. On arrive vers 1h du matin. Donc, ça commence à être plus raisonnable. Mais voilà, c'est une décision absolument indispensable pour renouveler notre amour et redonner notre confiance à l'autre. Maintenant, s'il y a des pardons qui n'ont pas été donnés en profondeur, on peut avoir besoin d'une tierce personne pour nous aider à cheminer dans ce pardon. Mais vraiment, on ne saurait dire à quel point c'est important. Et aussi pour les enfants. Que les parents demandent pardon aux enfants. On sait dire aux enfants qu'il faut demander pardon, mais dans l'autre sens aussi. Je te demande pardon, hier je me suis énervée excessivement à ton égard. J'avais raison de ne pas être d'accord avec ce que tu as fait, mais mon attitude n'a pas été juste, je demande pardon. Ben, un enfant est capable d'accepter beaucoup de faiblesses de ses parents à condition qu'il demande pardon. Étonnamment, ils acceptent tout à fait qu'on ne soit pas à la hauteur sur un certain nombre de sujets, mais si on ne le reconnaît pas, et si on ne demande pas pardon pour la blessure qu'on a causée dans leur cœur, là, ça crée des gros dégâts. Mais si on sait notre faiblesse, qu'on la reconnaît devant nos enfants, en disant, ben, tu vois, tu vas prier pour moi parce que je suis comme toi, je suis dans le même combat avec moi-même pour arriver à la sainteté. J'y arrive pas encore. Hier, je t'ai blessé excessivement, je te demande pardon. Et ben, je vous assure que vraiment, le regard que les enfants peuvent porter dans la famille se transforme avec ces pardons qui sont donnés dans les deux sens.
Yeah. La source du pardon n'est pas simplement morale. Elle n'est pas morale, elle est plus profonde. Nous avons insisté hier sur des éléments d'ordre anthropologique. Nous sommes faits profondément pour l'amour et le péché a fait une profonde blessure d'amour que Maud a, je crois, bien expliqué, blessure dans la relation avec moi-même, avec l'autre et avec Dieu. Et cette blessure, elle nous a profondément imprégnés et donc nous perturbe profondément. Et donc forcément, ces blessures font qu'à un moment, je vais mal réagir, etc. Et donc, derrière, je vais mal réagir par rapport à l'attention de l'autre, par rapport à un geste, mauvaise interprétation, je vais avoir des attentes qui sont exacerbées, etc., etc. Et donc, on est tous, en raison de cette blessure, on est tous plus ou moins des malades par rapport à ça. Et donc, on réagit mal. Et donc forcément, on va réagir de manière excessive par rapport à telle ou telle action ou non-action de l'autre. Et donc il faut bien être conscient que cette question du pardon à l'autre, c'est un baume de guérison de cette blessure. La guérison de notre blessure d'amour, elle va venir par toute l'affection, l'amour qu'on va donner à l'autre, mais elle vient également par le pardon qu'on lui donne. Le pardon qu'on lui donne. Et donc, si nous voulons grandir dans l'intensité de notre relation, il faut que j'aime l'autre, mais aussi il faut que je le pardonne et que je lui dise « je te pardonne ». Cette parole-là, c'est parce que aussi on est handicapé de la parole qu'à un moment on n'arrive pas à pardonner. C'est pour ça qu'on l'a mis en cinquième pilier. Parce qu'on n'a pas avancé sur la parole, on va avoir du mal à pardonner. Donc il faut dire à l'autre « je te pardonne ». Alors, sixième pilier, pauvreté. Pauvreté, c'est toute la question de la pauvreté, de la sobriété de vie, etc. On l'a mis comme pilier parce que c'est un point important. On voit des mamans, des couples qui sont hyper généreux, très spirituels, etc., etc. Mais on se rend bien compte, on voit bien, et aussi c'est notre expérience aussi à des mamans, c'est qu'à un moment, on est finalement pris par l'esprit du monde. L'aspect de mode, les aspects d'avoir financier, etc. etc. Et finalement, on rentre, on aspire à toute cette qualité, mais finalement, on est entre guillemets mondain. Parce qu'on est accaparé par les affaires du monde et par les richesses que propose ce monde, qui sont bien sûr utiles. On n'a pas à faire vœu de pauvreté comme des moines, c'est évident. Parce que nous avons en charge des enfants, nous sommes au cœur du monde, etc. Et donc il y a un minimum. Mais il est très important de se poser la question, est-ce que j'use de ces biens de ce monde avec mesure ? La chasteté n'est pas simplement dans les rapports affectifs et sexuels. elle l'est également par rapport aux biens de ce monde. Est-ce que nous usons chastement des biens de ce monde? Et là encore, ce n'est pas un précepte moral, parce que ça fait bien dans le paysage de dire ça. C'est que si je me pose la question, et si nous discernons ensemble sur une certaine sobriété de vie, ça veut dire qu'à un moment, nous prenons conscience que nous pouvons être liés par toute cette question de cet avoir, ou de l'image sociale, etc., etc. Et nous avons nous posé les questions. Et derrière ce que je dis, c'est bien sûr pas du tout une question de niveau de revenu, niveau d'avoir, parce qu'effectivement, celui qui est dirigeant d'entreprise n'a pas forcément les mêmes besoins et les mêmes nécessités que celui qui, je ne sais pas, une vie rurale, enfin je ne sais pas, vous voyez, toutes les situations sont possibles. Mais nous avons, quel que soit notre lieu de vie et état de vie, à nous poser cette question, voilà, qu'est-ce qu'on recherche? Parce que cette question de l'avoir peut à des moments être un écran vers le projet de dilatation de la Trinité en nous. Et c'est ça qui est important.
Alors, le prochain pilier, c'est la liturgie propre des époux. Donc ça, on en a parlé, c'est toute la célébration de notre amour dans la sexualité et dans la tendresse. Et le dernier pilier, c'est le père spirituel, l'accompagnateur. Alors, si le mariage est vraiment une vocation, si nous cheminons vers la sainteté, nous avons besoin d'être accompagnés. Dans l'Église, c'est une tradition que toutes les personnes qui veulent avancer sont accompagnées par un aîné dans la foi. Alors pour un couple, ça peut prendre plusieurs formes. Bien sûr, il y a le père spirituel qui va travailler plus sur votre propre vie spirituelle, mais il peut y avoir aussi des accompagnateurs qui sont des couples un peu plus aînés dans la foi qui vont vous aider dans les premières années de votre mariage et jusqu'à ce que vous pensiez qu'il y a besoin d'un autre. Enfin, après, on peut changer de père spirituel ou d'accompagnateur. Mais être aidé et accompagné dans la vie conjugale, ça me semble une donnée de base par un tiers. Et c'est absolument indispensable d'avoir un tiers qui, de temps en temps, relie les choses avec nous. Ah, tiens, vous avez remarqué, vous avez avancé sur tel point. Vous m'avez dit ça la dernière fois, maintenant vous en êtes là. Et c'est cette relecture-là qui nous permet de grandir et de relire notre vie. Et de nous aider à régler des choses sur lesquelles on a besoin d'une tierce personne qui soit, entre guillemets, un peu neutre, qui nous écoute chacun et qui nous aide à avancer. Alors, évidemment, je sais que c'est difficile à trouver dans l'Église, mais surtout, faites-vous accompagner, faites-vous guider par un frère ou une sœur aînée dans la foi qui ne va pas vous dire ce que vous devez faire, mais qui va vous aider à relire ce que vous vivez et à avancer. On a besoin d'avancer. La seule chose, c'est qu'il ne faut pas s'arrêter en disant « tout va bien ». Vous avez compris depuis le début que la première chose qui compte, c'est de prendre soin de votre relation avec l'autre. Et pour en prendre soin, eh ben vous mettez les moyens. Si on considère qu'on passe des années et des années à faire des études pour notre intellect, à apprendre des instruments de musique ou je ne sais trop quoi, eh bien on doit mettre une énergie encore plus grande pour apprendre à vivre en couple et à fonctionner en couple. Donc je pense que là, il y a vraiment un travail à faire. Donc les questions que vous pouvez vous poser et que vous aurez à travailler en partant en couple tout à l'heure, c'est où est-ce que vous en êtes de chacun de ces piliers? Comment vivez-vous la prière entre vous? Comment partagez-vous la parole de Dieu? Comment avez-vous envisagé la question de la gestion des biens? Comment est-ce que vous pouvez envisager votre appel conjugal? Voilà, toutes ces questions qui vont tourner autour des points qu'on vient de voir maintenant pour décider aussi quels sont les piliers que vous avez envie de mettre en œuvre dans votre ecclésiola. Votre ecclésiola, c'est-à-dire votre petite église, parce que vous savez que quand on se marie, eh bien, nous fondons une petite église. Et votre troupeau, eh bien, c'est votre famille. Et le Seigneur vous confie votre petit troupeau pour que vous en fassiez une église qui célèbre et qui loue le Seigneur. Donc ce petit troupeau-là, pour prendre soin de ce troupeau, eh bien, il faut mettre en œuvre des moyens que nous avons élaborés et énumérés ce matin.
Alors... Nous allons essayer d'élargir un peu l'espace de notre tente, comme dit la parole. Depuis le début, nous travaillons vraiment sur toute la question de la construction, de l'appel, de la sanctification, de la conversion, du salut apporté à notre couple. Mais si jamais tout cela se reste pour nous, alors forcément c'est égoïste. C'est finalement pour notre petit bonheur personnel. Et la parole de Dieu est très claire, et mystérieusement d'ailleurs, les actes des apôtres sont extrêmement clairs. Que cette bénédiction, cette libération, elle n'est pas simplement pour le couple, elle est pour notre maison. Donc elle est pour nos enfants et pour ceux que nous accueillons. Et en cela, il y a plusieurs textes dans les Actes qui sont très précis par rapport à ça. On vous renvoie par exemple au chapitre 16 des Actes des Apôtres, quand Paul et Silas sont libérés de la prison. Et puis le pauvre geôlier est absolument effrayé de voir ce miracle se produire. Il veut même se suicider. Il dit « Oh, mais arrête, surtout, arrête-toi, nous sommes tous là, etc. » Et là, à ce moment-là, le geôlier l'accueille chez lui. Et Paul et Silas lui disent « Ah oui, il les fit sortir, donc le geôlier. » Et il dit « Que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Et Paul et Silas répondirent « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Donc, c'est la réponse du salut que le geôlier, j'accueille ou j'accueille pas le salut ? J'accueille le salut, alors le salut est répandu sur ma maison. Et c'est très frappant de voir cette dynamique. Et c'est là où nous voyons, nous avons comme une preuve que nous sommes une petite église. C'est quoi une petite église ? C'est un seul corps. C'est toute la théologie du corps de l'église par saint Paul, où nous sommes différents membres, mais nous sommes membres d'un seul corps. Un seul corps, un seul membre est malade, et tout le corps est malade. Mais un seul corps est saint, et tout le corps est saint. D'autant plus que, Père et Mère, qui présidons ce corps et cette église, si nous accueillons le salut, tout le corps reçoit le salut. Vous me direz, comment ça se passe ? J'en sais rien. J'en sais rien. On lui demandera là-haut comment ça se passe. Mais c'est comme ça. Parce que nous faisons une seule chair, alors effectivement, la sanctification reçue, le salut reçu, va innerver ce une seule chair et le fruit de ce une seule chair que sont nos enfants. Et donc effectivement, c'est pour cela que le salut a été reçu. Corneille, c'est pareil, Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient. Donc, c'est Corneille qui interpelle Jésus, etc., etc. Et le Saint-Esprit donné, hop, tout le monde est concerné. Donc, le salut, c'est d'abord pour nous. C'est la porte du salut, ça passe par nous. Est-ce qu'on dit oui, est-ce qu'on dit non ? Mais c'est bien pour que le salut soit répandu dans notre maison. Il en va également pour la maison de Lydie, acte 16, un peu plus loin, où elle accueille et elle pose un acte de foi, et c'est toute sa maison qui reçoit le salut. Et c'est là quelque chose d'essentiel sur la question par rapport à nos enfants. Souvent, on nous dit, bah oui, mais écoutez, oui, éduquer nos enfants dans la foi, oui, d'accord, mais enfin, il faut les laisser libres. Oui, c'est vrai, oui, il faut les laisser libres, c'est vachement important. Alors, on va vraiment laisser libres, hein, bah, c'est-à-dire que quand on va les accueillir, nos enfants, on ne va pas les nourrir, parce qu'il faut qu'ils aient quand même la liberté de pouvoir manger ou boire s'ils veulent. Hein. Et s'ils ne mangent pas, s'ils sont malades, ah oui, mais on va leur imposer la guérison. Hein. Derrière la question de la foi, c'est finalement, pour nous, c'est quoi la foi ? Pour nous, c'est la nourriture la plus indispensable pour une vie. Est-ce que je vais laisser mon enfant malade parce que je vais lui laisser la liberté d'être malade ou guéri ? Non, je le prends par la peau du cou et je l'emmène à l'hôpital ou chez le médecin parce qu'il y a urgence. Eh bien, pour la foi, c'est pire. C'est qu'effectivement, notre première mission de parents, c'est de conduire nos enfants à la source. De les conduire à vivre de cet amour du Seigneur. Parce que c'est le plus beau trésor que nous ayons à faire, que nous ayons à leur donner et à répandre dans leur cœur. C'est bien plus important que le compte en banque qu'on doit leur donner. Je me souviens de notre aîné rentrant en école de commerce et 3 mois après C'est vrai que les écoles de commerce, c'est vraiment pas le milieu peut-être le plus favorable pour accueillir l'évangile, mais nous revenons à la maison 2 mois après les...
L'art, c'est pas mieux.
Oui, l'art aussi, c'est pas mieux. Mais nous disons, merci les parents, vous m'avez rendu libre. Ah bon, qu'est-ce que tu veux dire par là? Parce que, comme vous m'avez conduit au Christ, je me rends compte que je suis libre. Il y a eu tout le travail d'éducation humaine, etc., et ça, on l'a fait. Mais vous m'avez accompagné au Christ. On n'a pas été pour grand-chose là-dedans, mais le fait, effectivement, qu'elle a accueilli le Christ comme le Seigneur de sa vie. Et ce n'était pas dire, je suis content d'être chrétienne. Non. C'est côtoyant un milieu extrêmement différent de ce qu'elle avait l'habitude de... Je dis, mais je me rends compte que je suis libre. Et la vraie liberté, c'est d'aimer le Christ, parce que c'est lui qui nous libère. Et dans ce monde de plus en plus perdu, comme dit Paul, balancé à tout vent de doctrine, perdu, il n'y a qu'à ouvrir les télés, les canards, etc., etc. Le monde est perdu. Les politiques le disent même. Nous avons vraiment à essayer de conduire nos enfants vers le Christ.
Alors, on aime bien repérer 2 parties indépendantes dans l'éducation des enfants qui vont peut-être un peu vous surprendre. Mais quand ils sont petits, jusqu'à 10-12 ans, c'est la période que je dirais de catéchisme. On catéchise les enfants. On leur apprend des choses sur la foi. Ils imitent les parents. Ils font comme nous. Et on commence à les imprégner de ces valeurs chrétiennes, de la prière, de toutes ces choses-là. À partir de 12 ans, stop, on arrête tout. Devant nous, nous avons des païens à évangéliser. C'est pas parce que les enfants ont été construits dans la foi qu'ils sont chrétiens au sens où on l'entend. Ce sont des païens, c'est-à-dire qu'ils ont besoin de faire la rencontre avec le Christ comme tout païen. Donc nous allons chercher à les évangéliser et non plus à les catéchiser. Ça, c'était le travail de la petite enfance. Donc bien sûr qu'ils vont capitaliser sur tout ce qu'ils ont appris. Mais un adolescent, il a besoin de faire sa rencontre personnelle avec Jésus. Donc d'être évangélisé. Et le problème des parents chrétiens, c'est que souvent on ne fait pas le switch. Et on continue à faire comme si ils étaient toujours des enfants chrétiens. Mais non, à un moment, ils vous disent, non mais attendez, ce Jésus, j'ai choix d'y croire ou de pas y croire. Mais oui, bien sûr que tu as choix de croire et croire. Et donc, je vais tout faire, tout mettre en œuvre pour que cette rencontre ait lieu. Donc, je vais faire des choix conjugaux importants. Si mon enfant me dit, moi, je veux plus aller à la messe parce que c'est gnagnan, eh bien, je vais rechercher une messe où il trouve pas que c'est gnagnan, tant pis si je fais 1 heure de route. Je suis bien capable de faire 1 heure de route pour l'emmener à un match de rugby ou je sais pas quoi. Et ben je vais faire 1 heure de route pour l'emmener dans la messe, l'église, où là, il est rejoint par un prédicateur, par des jeunes qui jouent la guitare, je sais pas quoi. Enfin, son style, quoi. Son style. Peu importe. Et je vais ouvrir large les portes de l'église pour lui montrer qu'il y a plein de demeures. Donc, je vais l'emmener aux Béatitudes, à Thésée, je vais l'emmener dans un monastère, partout pour qu'il puisse voir et qu'il y ait un moment... Le Seigneur va choisir de passer par un membre ou une sensibilité d'église, peu importe, mais la sienne. Et c'est là que le Seigneur va le rejoindre et qu'il va pouvoir faire cette rencontre avec le Seigneur. Nous, on a découvert sur nos 5 enfants, il n'y en a pas 2 qui se sont, entre guillemets, qui ont vécu cette rencontre dans les mêmes lieux. Il y en a, c'était à Thésée, d'autres dans des monastères, 3e dans un machin hyper charismatique, 4e en pèlerinage. Enfin, chacun a trouvé le moment où le Seigneur s'est révélé à eux. Donc ce travail est vraiment important parce qu'on prend trop comme acquis le fait que parce que les enfants ont été élevés dans la foi, ils vont reconduire. Mais il faut qu'il y ait la rencontre entre les deux. Et il faut que cette rencontre, elle ait vraiment lieu. Et à ce moment-là, nos enfants peuvent devenir des adultes dans la foi. Autre point important que souvent on omet, c'est de former nos enfants à la vie spirituelle. C'est pas la peine d'attendre. Nous, si on a mis 20 ans, 30 ans, 40 ans à découvrir des choses dans la foi, c'est quand même bête de ne pas leur en faire profiter plus tôt. Autant qu'ils gagnent du temps sur nous. Donc ce combat spirituel, ils le vivent dès la petite enfance. Eh bien, donnons-leur les outils pour décrypter. Voilà ce que tu vis, voilà ce qui se passe. Tiens, dans la parole de Dieu, tu vois ce que Jésus dit sur ce sujet. c'est pas de la catéchèse pénible, c'est à partir des éléments de la vie, les aider à relire. Par exemple, une chose que j'ai découvert et qui marche très très bien, c'est aider les adolescents à relire le fruit de l'esprit dans leur cœur. Même un païen sait faire ça. Hier soir, tu as eu une teuf là avec tes copains, tu te sens comment ce matin? Qu'est-ce que tu sens dans ton cœur? Alors c'était bien cette fête? Qu'est-ce qui, à ton avis, n'était pas juste? Et à ce moment-là, on avance là-dessus. Et on leur apprend à discerner eux-mêmes. Et après, quand vous avez un grand gaillard de 19 ans qui vous dit « Telle soirée, j'y vais pas parce que je sais ce qui va s'y passer » et qui est capable de dire à ses copains « J'y vais pas », ben vous savez que vous avez gagné parce qu'il a acquis sa liberté. Il est capable de s'opposer à un groupe en disant « Non, ça, je ne le fais pas pour telle raison ». Mais c'est lui-même, c'est pas vous qui lui dites. Et ce travail-là, c'est extraordinaire de faire grandir dans un enfant cette capacité de discernement. Et vous allez voir, ce sont des maîtres en discernement quand ils ont des bons outils. Alors évidemment, au moment de l'adolescence, c'est quelque peu perturbé par les humeurs. Mais au fond, ils en savent quelque chose. Voilà. Nous, on a eu des adolescences bien vives chez nous. Comme les chiens font pas des chats, eh bien, c'est vrai que ça a été tonique. Mais en tout cas, on a vraiment vécu cet enfantement de l'adulte. C'est magnifique comme période, même si c'est une saleté de période quand même. Ouais.
Mais c'est là où c'est vraiment important. Moi, je vois tout le travail, notamment qu'a fait Maud. Où elle s'est beaucoup, beaucoup appuyée sur le combat de Thérèse. Thérèse qui est une enfant hyper pénible.
Sainte Thérèse.
Hyper pénible. Mais qui a vécu beaucoup de combats, qui avait à combattre une humanité, une psychologie fragile, des difficultés, des violences, etc. etc. Et Thérèse décrit très très bien tous ces combats et tous ces ajustements, tout ce qu'elle a fallu faire. Et Maud s'est beaucoup appuyée à partir justement, quand les enfants rentraient de l'école, exprimaient telle chose, tel combat, telle agression, telle difficulté relationnelle entre les frères et sœurs, etc. De pouvoir s'appuyer sur des expériences de Thérèse, sur les combats de Thérèse, pour dire, mais tu vois Thérèse, elle a vécu le même combat que toi, etc. De bien montrer que la vie spirituelle, c'est pas quelque chose qui se plaque, c'est pas quelque chose qui n'est pas naturel. C'est au contraire, il n'y a pas plus naturel que la vie spirituelle. Et il n'y a pas plus efficace comme clé d'entrée pour mieux comprendre ce qui se passe dans notre cœur, pour essayer de goûter concrètement que Jésus est le salut. Que Jésus le salue. Et vous comprenez que c'est un trésor qu'on donne à nos enfants. Et donc, nous avons, bien sûr, avec l'Église, avec les prêtres, les religieux, tous ceux qui les entourent, mais nous avons vraiment accompagné dans cette expérience que Jésus est le salut, que Jésus est le chemin à la liberté. Quand Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », on se dit, ah ouais, c'est vrai, puis on se dit, c'est une belle vérité théologique, on la met un peu dans un cadre, etc. Puis finalement, c'est pas concret. Mais dans ces choses-là, c'est vraiment très, très concret. Qu'est-ce que nous voulons pour nos enfants? Nous voulons vraiment leur bonheur, nous voulons leur libération, leur donner les outils, leur donner le discours de la méthode. Le discours de la méthode, c'est d'accueillir le Christ et comment concrètement il peut être le chemin du salut pour moi, pour nous. Alors vraiment, ça c'est le trésor. Nous cherchons tous à donner un bel héritage à nos enfants. Mais le plus bel héritage que nous avons à donner, c'est qu'ils soient vraiment libres. Et il n'y a que le Christ qui peut donner cette liberté. Donc on va finir ce dernier cénacle par une parole de Jean-Paul II dans un texte. Texte magnifique, mais que je n'ai pas amené, qui est resté dans notre chambre, qui est la lettre des familles. Et Jean-Paul II a écrit beaucoup de choses pour les couples et les familles, pour sa catéchèse, les encycliques, etc. Mais son texte, sans doute le plus personnel et le plus accessible, et en plus le plus charismatique, c'est impressionnant, c'est sa lettre aux familles qu'il a écrite en 93-94. La lettre aux familles, c'est de l'or en barre. À un moment, il a une épiclèse, on ne peut pas vous la lire là, mais elle est dans le bouquin là. Une épiclèse, une invocation à l'Esprit Saint pour que vraiment nous soyons forts du Saint-Esprit. C'est extraordinaire. Mais voilà un extrait de cette épiclèse et de cette exhortation. Et je crois que nous pouvons essayer vraiment d'accueillir cette, cette parole de Jean-Paul II, vraiment dans la prière, ensemble, parce que c'est vraiment un appel profond, mission centrale pour nous. Époux, vous devez naître de l'Esprit Saint. Vous devez naître de l'Esprit Saint. Père et mère sont les premiers témoins. Ils sont les ministres de la nouvelle naissance dans l'Esprit Saint de leurs enfants. Témoins et ministres de la nouvelle naissance dans l'Esprit Saint pour leurs enfants. Vous qui engendrez les enfants dans leur vie humaine, n'oubliez pas que vous êtes appelés à les engendrer aussi pour notre Dieu. Seigneur Jésus, nous voulons te confier et te présenter tout ce que nous avons abordé durant ce dernier cénacle, durant tout ce week-end. Seigneur Jésus, nous te prions vraiment instamment, Esprit Saint, pour que toutes ces paroles maintenant prennent corps en nos vies, prennent chair en nos vies. Ta parole vraiment fructifie, Seigneur Jésus. Que tu nous conduises véritablement à poser les fondations en profondeur de notre couple, à construire notre cathédrale, à entendre ton appel, cet appel unique que tu as mis en nos vies, pour notre bonheur.
Seigneur, viens en cet instant toucher et rejoindre tous nos enfants, ceux qui sont présents ou ceux qui ne sont pas là, ceux qui sont encore dans le sein de leur maman. Viens poser ta main sur eux, viens leur donner tout ton amour, fais-les grandir sous ton regard pour qu'ils te découvrent comme leur sauveur et leur Dieu.
Seigneur Jésus, nous te confions ce temps d'adoration qui va venir vraiment dans ce face-à-face, ce cœur à cœur avec toi, avec le cœur du cœur de ton mystère. Viens vraiment faire œuvre de rédemption, de salut, de notre vie personnelle, de notre vie conjugale. Ta promesse se concrétise, se réalise en nos vies. Fais tomber nos barrières. Et que cette œuvre de salut vienne fructifier chez nos enfants.